message, l'éloignement de la vérité. L'éloignement de la vérité, et on va se baser sur un passage assez connu dans l'épître aux Corinthiens. Et vous avez un homme particulier, un homme exceptionnel qu'il a écrit et qu'il a laissé ses empreintes dans le monde. C'est pas n'importe qui, c'est l'apôtre Paul. Et lui, il nous écrit en 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 3 et 4, que je vais également lire maintenant. Chapitre 11, versets 3 à 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous avez, un autre Jésus que vous avez prêché, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Alors c'est vrai que ces deux beaux versets, il y en a beaucoup à y apprendre de ces deux versets, mais j'aimerais, avant de détailler ces deux versets, mettre notre texte dans son contexte. L'église à Corinthe a reçu une première lettre de l'apôtre Paul, qui était soucieux pour cette église. Il se demande comment est-ce que eux, ils avaient réceptionné cette première lettre. Également, il y avait un acte disciplinaire envers un membre fautif. Et lui, il n'était pas curieux, mais soucieux. Alors, Paul retrouve à Tite, en Macédoine, après avoir quitté Éphèse pour Troas, il retrouve Tite qui lui apporte de nouvelles très fraîches. Des bonnes, mais des mauvaises nouvelles. Alors, apparemment, il y avait des super apôtres qui se sont infiltrés dans l'Église et qui cherchaient dérober les corps des saints de Corinthe. Alors, Paul s'est inquiet pour celle-ci, s'est dit à un moment donné, mais je vais quand même le lire parce qu'on l'a sous la parole. Même chapitre 11 de ces 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 1, il dit « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi. » Lui, il appelle ça sa folie, mais ce n'est pas pour réclamer à son profit l'affection de ses croyants à Corinthe, mais pour défendre, pour les défendre. Il était jaloux pour Christ. Et on le lit au chapitre suivant, chapitre 12, verset 15, qui le dit « Pour moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. En vous aimant davantage, serai-je moins aimé de vous ?» Alors vous voyez là, Paul s'attribue le rôle de témoin qui veille aux mariés et à l'organisation de cette cérémonie. Il veut prendre soin de ses brebis. Rappelons-nous également que dans la première épître aux Corinthiens, les tensions dans l'Église et les problèmes qui surgeaient à cette époque venaient des membres de la communauté eux-mêmes. Et la deuxième épître aux Corinthiens, ils proviennent aussi en partie des perturbateurs, je l'ai dit tout à l'heure, qui se sont infiltrés dans l'Église. Paul accuse ces perturbateurs d'être animés par un autre esprit, verset 4 que je lis tout à l'heure, d'un autre évangile, d'un autre Jésus que celui qu'il avait prêché. Et au verset 11-15 que je lis maintenant, il dit « Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent au ministre de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Il s'agit, l'apôtre Paul détecte bien le maître Satan qui dirigeait toutes choses. Et avant sa rébellion, nous l'avons écouté tout dernièrement, dans différents sermons en Apocalypse, Satan s'est révélé, c'est un ange, l'ange de lumière, c'est un ange déchu. Et derrière ses ouvriers trompeurs, alors cet ange a une apparence qui tente les hommes par sa ruse. Il trompe très, très, très facilement. Nous déjouerons ces ruses, mes frères, en restant attachés à la parole du Seigneur. Alors, pour nous aider, on va lire plutôt, et on trouve dans ces deux versets quatre erreurs fatales, quatre erreurs qui ont coûté très cher à cette église locale de Corinthe. La première erreur, ils se sont laissés séduire. Deuxième point, ils se sont laissés corrompre. Troisième, ils se sont laissés détourner. Et quatrième point, ils se sont laissés confondre. Je relis la première partie de ce verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Alors oui, Paul craint que les Corinthiens se laissent séduire comme Ève l'avait fait au jardin d'Éden. Ça fait référence au livre de la Genèse, au chapitre 3. Et on le lit, Genèse 3, verset 5. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Voyez là la tactique de l'adversaire de Satan, était l'acquisition de la connaissance. Il a fait chuter Ève en lui disant, vous allez acquérir la connaissance. L'apôtre Paul voyait également que l'ennemi tentait subtilement d'éloigner les Corinthiens de Christ comme il avait séduit Ève. Je répète encore une fois. Alors en faisant preuve de finesse, discrètement, sans s'en rajouter, mes amis, sans rajouter rien, parfois de façon que ça passe inaperçu, on ne se rend même pas compte. Il est le principal adversaire, nous le savons également, entre Dieu et nous les hommes. Lui, il veut détruire, c'est un destructeur. La parole de Dieu nous décrit la méthode également d'y agir, ou je dirais plutôt les méthodes. Je ne vais pas toutes les décrire parce qu'il en a, il y a nombreux passages qui nous indiquent la façon que Satan agit dans l'Église, envers les croyants, envers les enfants de Dieu. Une première, nous les trouvons, et je vous invite à lire avec moi également, Matthieu 13, 25, l'évangile de Matthieu, où le Seigneur avertit ses propres disciples, 13, 25, je lis, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema délivré parmi le blé et s'en alla. Là, oui, l'attaque vient de l'extérieur de l'église. Et là, Jésus raconte que quelqu'un des malveillants, sème une herbe qui ressemble au blé. C'est livré. Et en latin, on l'appelle la zizania. Et on sait très bien ce que ça veut dire. Ces mots, c'est assez connu, c'est assez répandu dans le monde entier. Cette herbe que l'on n'arrache pas de peur d'arracher en même temps le blé. D'où l'expression qui dit « séparer les bons grains des livrets ». Alors les bons grains des signes, vous les avez aussi, les enfants de Christ, les enfants de Dieu, les croyants, et livrer ceux qui professent l'être, mais qui ne le sont pas du tout. Il y a un deuxième passage dans le livre, dans l'évangile de Matthieu, encore une fois, au chapitre 24. verset 3-5. Le Seigneur, encore une fois, il s'assit sous la montagne des Oliviers et les disciples virent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du temps? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de monde. Alors, dans ces passages, le Seigneur est en train de donner un avertissement à ses propres disciples. Je ne vais pas rentrer dans une étude eschatologique, loin de là, ce n'est pas le but du message de ce matin. Mais relever ces points où Jésus dit à ses propres disciples, prenez garde que personne ne vous séduise pas. Il nous faut montrer sobre, mes amis, et vigilants, parce que nous avons un adversaire rusé, un adversaire puissant. Ce n'est pas n'importe qui. Soyez sobre, 1 Pierre 5, 8, veillez votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors c'est vrai qu'il est plus dangereux lorsqu'il se présente comme le serpent séduissant, c'est beau, ça passe inaperçu, que quand on voit l'attaque comme le lion rugissant. On fuit plus facilement quand on voit le lion devant nous. L'ennemi avait sa tactique, continue de séduire l'Église de Christ, à vouloir la détruire, pas seulement l'Église ou les Églises à Genève, mais les Églises dans le monde entier. Nous ne sommes pas les seuls, et également nous ne serons pas les premiers, nous ne serons pas les derniers, mes amis. L'attaque de l'ennemi continuera, et depuis le début, il continue à vouloir détruire l'Église de Christ. Deuxième point, en avançant, ils se sont laissés corrompre, nous dit sa parole. Toutefois, comme de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, j'ai craint que vos pensées ne se corrompent. L'apôtre craint fortement également que les Corinthiens écoutent aux mensonges qu'elle est corrompée. Et Satan cherchait à nouveau de dérober les corps des saints de Corinthe à Christ. Et on sait très bien également, c'est l'arbre de vie. On les tentant par l'arbre de la connaissance. La corruption de la pensée, un mot que c'est aussi pour résumer la corruption, c'est la décadence, c'est la fin de toute chose. Quand il y a une corruption, c'est la fin de tout. Et dans un sens moral, à plusieurs reprises, Paul, dans les épîtres aux Romains, chapitre 1 à chapitre 3, il nous parle justement que l'homme est corrompu. Voilà. Et on lit en Romains 3, 12, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. La Bible dit clairement que la corruption est péché. Et vous connaissez aussi, on connaît très bien, le pire exemple de la Bible par rapport à la corruption, les 30 pièces qui ont payé les anciens et les prêtres à Judas pour qu'ils puissent les crucifier. 30 pièces d'argent qui a coûté la vie du Seigneur. C'est le pire des corruptions, ce n'est pas l'Union des banques suisses. C'était vraiment des petites pièces, mais qui l'ont coûté très cher. Et on sait aussi également que au moment où Judas a reconnu, ou s'est rendu compte qu'il avait commis une grave erreur, alors il ne s'est pas repenti, il s'est pendu. Mais quand il a voulu rendre cet argent aux anciens et aux prêtres, qu'est-ce qu'ils ont dit? On n'en veut pas de ça. On n'a pas de ça. On ne veut pas de ça. C'est le prix du sang. Le pire exemple, mes amis, c'est ça, la corruption, juste pour vous faire comprendre que c'est laisser corrompre c'est aussi grave et un vrai, vrai péché. Les Corinthiens se sont laissés corrompre par l'ennemi qui a placé des pièges devant eux et les a éloignés de la vérité qui se trouve selon Christ. Il a premièrement séduit, on l'a dit tout à l'heure, il les a ensuite corrompus et les éloignant de la simplicité et de la pureté qui est l'évangile de Christ. Je lis en Philippiens 4, Philippiens 2, pardon, versets 10 à 11. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ le Seigneur a la gloire de Dieu le Père. Paul écrit ça aux Philippiens à ce sujet, il le dit, le seul souhait de Paul, c'est de voir les enfants des Corinthes, les croyants des Corinthes au pied du Christ. Il ne veut pas dérober les cœurs des Corinthiens pour lui. Comme certains ont la tendance, Satan veut ça, ils veulent accaparer les cœurs de toute personne pour lui. Il adore ça. Paul également, il le dit, là, il le dit clairement, ce n'est pas pour son profit. Ça nous amène maintenant, mes amis, au troisième point. Ils se sont laissés détourner. En lisant encore le verset 3 dit, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Paul était donc jaloux à l'égard des Corinthiens dans une jalousie de Dieu. Et comme lui, tous les serviteurs, je le dis encore une fois, doivent être jaloux et défendre la parole du Seigneur, défendre les vraies vies du Seigneur. En Corinthiens 3, 4, 5, dit quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce qu'est donc Apollos et qu'est-ce qu'est Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Inversement, je répète encore une fois, et c'est très important, Satan introduit ici comme le serpent accomplissait son travail sur la terre, la séduction pour corrompre et détourner, et dans le ciel également, l'accusation des frères, il n'en finit jamais, l'accusation des frères jour et nuit. Apocalypse 12, 9, 10. Voyez, le travail est intense. Le travail de Satan n'a pas il a pas de vacances. Il n'a pas de vacances. Il est intense. Et la seule chose qu'il veut, c'est dérober encore une fois les corps des croyants. Paul craint que par manque de discernement, les Corinthiens soient infidèles à Christ en adoptant une fausse doctrine, en se détournant de la parole de Dieu. Pour tout vous dire, Paul est en train d'expliquer là une chose très, très importante. Il dit, dans d'autres mots, « Je crains que vos sens absorbent des fausses et défectueuses idées du christianisme. Je crains que vous adoptez des principes qui ne sont pas la vérité. Je crains que vous éloigniez de la foi qui a été donnée aux saints et tolère des idées qui détruisent pratiquement l'évangile de Christ. Les dangers, mes amis, sont nombreux. Les dangers de se détourner de la foi. Je viens de mentionner trois. Mais Paul a dû les exposer également à son enfant Timothée, son enfant dans la foi. Timothée, on l'a étudié tout dernièrement dans les groupes de maison, pour lui avertir également, afin qu'il ne se détourne pas de la parole, de la vérité, de la foi en Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Je lis 1 Timothée, verset 6, pardon, 1 Timothée, chapitre 6, verset 3 et 4. 6, versets 3 à 4. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses, des disputes des mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus dont on demande privé de la vérité en croyant que la piété est une source des gains. Oui, l'expression extraordinaire que Paul également utilise dans ses passages de 2 Corinthiens, de la simplicité à l'égard de Christ, au verset 3 de ses 12e épître, c'est un avertissement à ne pas s'éloigner de l'authenticité de l'Évangile. Cette expression est également écrite pour nous en tant qu'Église, avec une signification tout particulière. Il n'existe aucune autre doctrine que celle établie par Christ et les apôtres, mes amis. Ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Et nous ne devons jamais, jamais, ni dans nos pensées, penser à nous écarter de ce que la parole du Seigneur nous dit. C'est le seul moyen dans lequel nous allons aboutir jusqu'à la fin, quand le Seigneur reviendra pour son épouse. Nous serons prêts si nous suivons à la lettre, sa parole du Seigneur. Romains 5, 3, 4 dit bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans les épreuves, et cette victoire l'espérance. C'est l'espérance de tout chrétien. Personne peut dire qu'il a lu dans la Bible qu'on n'aura jamais des problèmes, qu'on n'aura jamais des persécutions, qu'on n'aura jamais des conflits familiaux dans nos travails. Ce n'est pas écrit dans la parole. La seule chose qui nous dit, persévérez et vous y arriverez. À continuation, je voudrais juste rappeler quelques principes bibliques auxquels nous devons faire attention afin de ne pas nous détourner de la vérité du Seigneur. Numéro 1, il n'y a pas un autre chemin pour la paix que le simple chemin tracé par Christ. Beaucoup d'églises ailleurs, ici même à Genève, prêchent la paix et l'amour. Mais non, le seul chemin pour avoir la paix, c'est l'avoir en Christ Jésus. Deux, il n'y a pas d'autre médiateur entre nous et Dieu que son Fils Jésus-Christ, son Fils unique, Dieu incarné, pas un Jésus, un prophète, un peace and love, ou un révolutionnaire, ou un philosophe. Christ Jésus incarné, Dieu incarné. Ça oui, mes amis. Trois, il n'a pas d'autre sacrifice pour le pardon des péchés que celui payé par Christ à la croix du calvaire. Il s'est donné pour nous, et une seule fois, c'est suffisant. Il n'a pas une autre règle de foi que celle de la parole écrite de Dieu. Celle-ci, vous l'avez aussi. 5. Il n'a pas d'autre moyen de la grâce dans l'Église que font autorité, à l'exception de ce que Christ et les apôtres ont établi. 6. Il n'y a pas un autre enseignement du Saint-Esprit que celui enseigné par Christ lui-même. Et je lis Jean 14, 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point, il ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Oui, les faux apôtres sont venus avec de nouvelles idées, avec un autre esprit, mais pas l'esprit de Christ. On peut le voir en 1 Timothée 4:1, 1 Jean 4:1, 1 Jean 4:6, Oui, le Saint-Esprit du Seigneur. Il n'a rien de vrai, au dernier point 7, que dans la vérité enseignée de manière équilibrée, je dirais systématique. C'est la parole du Seigneur comme elle a été faite par Christ et les apôtres. Ils sont jamais, et le Seigneur n'a jamais enlevé un mot de sa parole divine. Et ça, mes amis, je vous conseille, vous devrez l'écrire dans vos cœurs et ne l'oubliez jamais. Le chemin, le seul chemin, c'est Christ, notre Sauveur. Alors, nous pouvons également faire face aux attaques, et l'adversaire n'aime pas, on le sait très bien, et ne pas nous laisser détourner de la vérité en restant fidèle à Christ. Ça, on est sûr et certain à 100%. L'attaque viendra toujours, l'attaque sera toujours présente dans nos vies des chrétiens, mais nous pouvons faire face à ces attaques. Et nous l'avons vécu ici depuis quelques mois. Et nous voyons la présence du Seigneur présent dans cette église locale OIG. À ce qu'il a dit à sa parole, à laquelle nous devons nous soumettre également, difficilement parfois, ça nous coûte parfois d'obéir, même à nos patrons, dans nos vies de tous les jours, ou les étudiants, aux professeurs. L'autorité, on a la difficulté à y accepter, mais la parole fait, c'est la seule et unique autorité, nous devons nous soumettre. Et à ce qu'il veut de nous comme Église. Tout à l'heure, Solofo nous a montré un très bel exemple de ces grains de café et cette lumière. Et nous devons être, voilà, cette lumière. Ici, on est très bien, on se connaît, on est très bien entre nous, mais à l'extérieur, mes amis, nous devons refléter la lumière de Christ. C'est Christ en nous. Et nous devons, voilà, vraiment y vouloir y attendre à sa sainteté et pouvoir refléter cette lumière à nouveau. L'Évangile, à une église réunie pour l'adorer, nous le faisons chaque dimanche. Gloire à Dieu. On a prié pour l'église persécutée tout à l'heure également. Nous avons cette liberté, continuons à nous réunir dimanche après dimanche. Et quelle grâce nous en avons d'avoir ces locaux pour pouvoir le faire. Et être un exemple vivant du mandat d'aimer Dieu, en premier, c'est un commandement, et de nous aimer les uns les autres, mais d'un amour sacrificiel. Ça nous coûte aussi d'aimer notre voisin. Mais le Seigneur nous demande de l'aimer en premier, mais de nous aimer les uns les autres. Car s'il y a quelqu'un qui vient vous prêcher un autre Jésus que celui qui nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui qui vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. C'est la suite au verset 4 de ce deuxième épître aux Corinthiens. Et on arrive au quatrième point. Ils se sont laissés confondre, séduits, ils se sont laissés corrompre, ils se sont laissés détourner, là ils se sont laissés confondre. Dans sa première épître, l'apôtre admettait qu'ils étaient enrichis en toute connaissance. On peut le lire en 1 Corinthiens 1:5 et 1 Corinthiens 8:1-3. 1 Corinthiens 1:5. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Chapitre 8, versets 1 à 3, et 1 Corinthiens également. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il le faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, c'est lui-là, il est connu de lui. Comme autrefois l'ennemi a approché Ève avec la question, et ça, je pense que ça peut nous arriver à quelqu'un entre nous, Mais quoi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mais c'est vrai, il t'a dit. Mais c'est ça qu'il dit. Et là, il remet la question, la parole de Dieu en question. Il veut vraiment substituer la raison humaine à la raison divine. C'est toujours la tactique qu'il en a. Mais c'est vrai, Dieu dit vraiment ça, mais non, c'est pas possible. Pourquoi vous vous réunissez chaque dimanche jusqu'à ce qu'il revienne? Ça ne vaut pas la peine. Pourquoi vous vous aimez les uns les autres? On peut s'aimer à l'extérieur également. Mais le Seigneur nous le demande, mes amis. Ainsi, il a corrompu la grande profession chrétienne en présentant un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile que ceux de la parole de Dieu. Je le disais tout au début, il est très astute, l'astuce. On découvre l'erreur dévastateur commise par les Corinthiens et qui les a conduits à la ruine cherchée par l'adversaire. La présence de l'immoralité, de la corruption, de l'orgueil, en particulier dans l'église à Corinthe, les a conduits insensiblement vers le rejet total de la vérité du christianisme. Car un mal, on le sait tous très bien également, ne demeure jamais seul. Tout ça s'est rajouté. Tout ça, c'est quand ils se sont éloignés de la parole du Seigneur, de tout ce qu'il avait mis sous place, ils se sont tout de suite détournés. Il s'était déjà montré prêt à écouter les faux docteurs, on l'a lu également en 1 Corinthiens, et il s'est montré très tolérant à leur égard. Et c'est humain, c'est charnel. On aime les personnes qui aiment bien apporter la parole. Il y a des gens qui sont très faciles à la parole. Mais ce n'est pas ça qui compte, mes amis. Ce qui compte, c'est que le Seigneur, ce que le Seigneur veut nous dire dans sa parole lui-même. Et l'expression, vous le supportez fort bien, dans ces versets 4, est ironique. On sait très bien aussi, parce que n'est pas question pour Paul d'approuver une tolérance envers les récits. Il leur dit, hein, verset 4, que c'est lui qui nous a, que nous avons prêché, ou c'est vous avez reçu un autre esprit, que c'est lui que vous avez reçu, ou un autre évangile, que c'est lui que vous avez embrassé. Vous les supportez fort bien. Oui, Galates, Paul écrit encore à cette église de Galates, 6, 1, 6 et 8, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à notre évangile. Non pas qu'il aille à un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. » Oui, mes amis, si quelqu'un vient nous prêcher notre évangile, ne lui écoutons pas. Ces faux enseignants composés des judaïsants, la plupart, étaient en désaccord par rapport à la personne et à l'œuvre de Christ. Paul avait établi l'église de Corinthe sur l'enseignement d'un fondement solide, à savoir Jésus-Christ lui seul. Sa personne et son œuvre, et malgré ça, ils se sont laissés confondre, tout simplement par des faux enseignements. Colossiens 1.8, 1.18, pardon, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Si vous vous avez posé la question une fois dans votre vie, mais qui aurait pensé qu'à peine quelques temps, c'était juste un laps de temps très court, que le Seigneur avait été crucifié et les disciples déjà ils commençaient à écouter des nouvelles choses. Le temps des miracles n'était pas encore fini et ils s'étaient laissés embarquer par des autres faux docteur, super apôtre. Cette mise en garde, mes amis, que l'apôtre Paul nous laisse dans sa parole reste d'actualité pour nous. Chers amis, beaucoup de chrétiens courent le même danger que les Corinthiens. Courent au fond parce qu'ils trouvent le véritable christianisme de suivre à Christ trop sévère. C'est une charge, d'après eux. Mais en revanche, un évangile qui est sacré, l'homme y accorde une place à la chair, sera supporté sans aucun problème. Nous devons veiller à l'égard de la tendance qui est monnaie courante et de rechercher un christianisme à notre convenance et à notre mesure. J'appelle toujours ça un christianisme à la carte. Je ne sais pas si vous allez souvent au restaurant. Mais au restaurant, c'est bien parce qu'on arrive, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Et on a différents menus. C'est génial. Mais pas quand il s'agit de la parole du Seigneur. On ne peut pas avoir un menu à tous les goûts. Le seul goût qu'on doit y avoir, c'est l'amour pour Christ. Et oui, je voudrais rajouter une note d'encouragement. C'est vrai que, en sachant qu'il y a l'adversaire qui rôde autour de nous, parfois on peut se sentir un peu découragé, mais non, ce n'est pas le cas. Et permettez-moi de lire un très bon passage dans l'Épître aux Éphésiens, que vous connaissez tous et qu'on a beaucoup lu, mais c'est un rappel, si je la trouve. Je dois la voir. Éphésiens 6, voyez l'armure de Christ, l'armure de Dieu pour nous. Éphésiens 6, et je lis à partir du verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armures de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits des flammes du malin. Prenez aussi les casques du salut, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et faites tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Oui, rappelez-vous que notre combat est contre un ennemi très rusé, séduisant. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant à qui il dévora. Mais il est également le serpent qui séduit. Il sait comment faire et il connaît nos faiblesses. L'ivraie est confondue avec le bon grain. Oui. Affecte aujourd'hui de nombreuses églises, inclut cette église locale, EIG, à Genève. Tout simplement parce que nous prêchons la parole du Seigneur. Nous défendons la vérité qui est sa vérité. Et l'adversaire, il n'est pas content. Mais l'église de Christ et nous lui appartenons. Nous n'appartenons pas à quelqu'un d'autre que Christ Jésus. Et pour terminer, je vous encourage à continuer à faire confiance au Saint-Esprit et aux promesses de Dieu sous sa protection divine. Dieu ne nous laissera jamais nous éloigner de la vérité. C'est une promesse qu'il nous a faite. Laissons-nous instruire par la parole de Dieu pour acquérir une profonde connaissance du plan divin dans nos vies. Demandons à Dieu de nous enseigner à travers son Saint-Esprit. Demandons à Dieu de renouveler notre entendement. Et dernièrement, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques saints, mais sortons-nous réciproquement, et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours, Hébreux 10, 25. Oui, notre sauvegarde est de veiller à notre entière état pardon, intérieur, il est donné de nous donner à Christ et de lui donner sa place, sa première place dans nos vies et dans notre vie d'église. Le service et les œuvres suivront et nous ne mettrons pas les services à la place des holocaustes. Mais au fond, le Saint-Esprit nous maintient dans la vérité et Dieu seul peut nous garder sans que nous branchions. La parole du Seigneur nous encourage vraiment à lui faire confiance. Et je termine ici et je voudrais vous prier de... On va s'élever, je voudrais prier au Seigneur pour la suite de notre Assemblée Générale extraordinaire qui va avoir lieu et que vraiment le Seigneur guide à chaque jour, nous dirige vers sa vérité, la vérité qui est sa parole. Prions seulement. Dieu Tout-Puissant, Seigneur, merci pour ta parole. Ça nous fait tant de bien, Seigneur, de la entendre et la comprendre. Que nous ne soyons, Seigneur, des auditeurs, ne serions pas des auditeurs oublieux. Que nous puissions, Seigneur, la mettre en pratique. Seigneur, que chaque jour, nous nous rappelions que tes promesses, Seigneur, s'accomplissent chaque fois, Seigneur, dans nos vies. Merci pour cet exemple des deux Corinthiens qui nous avertit, Seigneur, de faire attention à un adversaire très puissant, oui, Seigneur, mais toi, tu es plus puissant. Rien ne peut nous faire du mal sans ton autorisation, Seigneur. Et Seigneur, merci de nous soutenir, de nous avoir soutenus tous ces longues années, Seigneur, dans cette église locale. Et je te prie pour ton église autour du monde, Seigneur, qui prêche le vrai évangile, que tu les soutiennes également, les protège, Seigneur. Bénis notre assemblée, bénis nos frères et sœurs en Christ. Je prie également pour ceux et celles, Seigneur, qui ne sont pas là, ici présents, Seigneur, ce matin. Merci encore pour la suite, Seigneur, de cette assemblée générale extraordinaire qui aura lieu. Seigneur, je te prie de tout guider, de, Seigneur, vraiment que le fasse pour te glorifier. Et je te le prie, Seigneur, au nom de Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen, Père. Amen. Merci.